Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, notre première destination aujourd'hui est marocaine, plus précisément la région de Marrakech-Safi, une petite commune rurale, Sidi Zouine. C'est là où sont intervenus des hommes du bureau central d'investigation judiciaire. Ils sont intervenus pour démanteler une cellule terroriste qui était affiliée au groupe État islamique. Celle-ci ambitionnait de commettre des attentats terroristes sur le territoire marocain. C'est une opération qui a été tout à fait nécessaire pour pouvoir garantir la sécurité collective, sachant que cette cellule avait pour ambition de confectionner, voire d'utiliser des matières explosives, voire d'acquérir des produits chimiques. Donc ils étaient tout à fait nocifs. Une enquête, bien évidemment, va se poursuivre pour essayer de mieux cerner ce qu'étaient les connexions de ces quatre personnes qui ont pu être arrêtées par les forces de sécurité. L'épidémie de coronavirus n'aura pas épargné l'économie algérienne. Perte nette d'emploi, près de 500 000 Algériens ont perdu leur travail. Le taux de chômage s'élevait en 2020 à 15,1%. Malgré tout, espoir à Alger. Le taux de chômage devrait revenir aux alentours de 13,9%, aux alentours de 14%, ce qui serait le seuil hanté à la pandémie. Il n'en reste pas moins que les entreprises ont vraiment connu de grandes difficultés, des pertes de chiffre d'affaires, l'immobilisation des outils de travail, des détériorations de leur trésorerie et bien évidemment une perte d'emploi qui a fortement impacté les familles algériennes. On reste en Algérie avec toujours cette problématique de l'eau qui demeure, puisque l'on sait qu'il y a eu des coupures d'eau en ce début de semaine à Alger. Le pays aujourd'hui se trouve en situation éminemment complexe. Si l'on s'en tient au barème de la Banque mondiale, un pays atteint le seuil de pauvreté si ses ressources hydriques sont inférieures à 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par année. Le seuil de pénurie est en deçà de 500 mètres cubes. Or, pour ce qui est de l'Algérie, actuellement, elle est aux alentours de 600 mètres cubes par habitant et par année. Donc, ce qui fait que le pays est en situation de pauvreté en ressources hydriques, ce qui est tout à fait préoccupant, sachant que, juste pour vous donner une idée, un pays comme la Norvège, bon, qui est lui bordé, gorgé d'eau, est environ à 100 000 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Cela dit, le différentiel, maintenant, ce sont deux pays de géographie qui n'ont rien à voir. Mais voilà, c'était juste pour donner un élément de comparaison. Donc la situation est tout à fait préoccupante en Algérie avec ces coupures d'eau. Et ce qui est paradoxal, c'est que bien que 90% de la population algérienne soit raccordée au réseau public de l'AEP et qu'ils bénéficient pratiquement tous d'un système d'assainissement, malgré tout, il y a des difficultés parce que les politiques de gestion des eaux n'ont pas été à la hauteur à la fois du réchauffement climatique et également de la courbe démographique algérienne. Et on finit avec l'Algérie, avec ce dernier élément pour pouvoir tenir l'été. Eh bien, les autorités algériennes ont décidé d'importer du blé en provenance de Russie. C'est ce qui a été décidé par les autorités algériennes. Pour l'instant, les livraisons qui ont été proposées, des cargaisons françaises de 27 000 tonnes de blé, ont été refusées pour non-conformité aux exigences sanitaires algériennes. C'est un projet du président mauritanien Cher Razouani qui va rencontrer la semaine prochaine les présidents des grandes formations politiques du pays. Il sera question de concertation nationale, ce qui fait que toutes les formations qui forment l'échiquier politique mauritanien aujourd'hui prennent la parole pour dire leur disposition déjà à participer à ce débat sur la concertation nationale. Cela va par l'Union pour la République qui est le parti au pouvoir. Des réunions vont se tenir pour réfléchir à ce concept de concertation, comment l'engager sur des problématiques nationales importantes, économiques, politiques, sécuritaires et autres. Mais voilà comment en fait se parler. Puis c'est la même chose aussi du côté de l'opposition. Il y a déjà eu des rencontres. C'était ce week-end, par exemple, les forces progressistes de changement ont initié elles aussi une réflexion pour voir comment aborder ce processus de concertation nationale en Mauritanie. Toujours de la tension à Jérusalem. Alors c'est une tension qui est moindre, qui est moins importante que ce que l'on a connu ces dernières semaines. Mais toujours dans le quartier Est, il y a des accrochages, des accros. Ce qui fait qu'il y a un climat tendu, quelques arrestations, mais les gens sont relâchés quelques instants plus tard. Donc on va dire que c'est un seuil de tension qui est relativement bas, mais qui est permanent, qui continue. Et a priori, rien ne dit que cela devrait s'arrêter durant les prochaines nuits, puisqu'on se rend compte au regard de ces derniers jours que c'est plutôt la nuit que la tension monte entre les deux communautés de Jérusalem-Est.
Attaque, combat, guerre.
Nous allons à Marib, au Yémen, pour notre escale avec ce factuel terrain, des morts, beaucoup de morts. Les Houthis n'arrivent pas à rentrer dans la ville qui est tenue par les forces loyalistes yéménites qui continuent de rester. Marib, dernier bastion gouvernemental. Marib, ville importante d'un gouvernorat qui à la fois recèle de fortes richesses pétrolières mais également qui compte un nombre important de réfugiés. Est-ce que l'on peut discuter aujourd'hui? Est-ce qu'on peut engager un cycle de négociations? C'est toute la question qui se pose pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas un affrontement généralisé sur la ville de Marib. Des pourparlers entre la coalition arabe et les Houthis pourraient se concentrer sur des mesures que l'on connaît, à savoir la levée du blocus sur les ports qui sont tenus par les Houthis et surtout l'aéroport de Sanaa, puisque en fait ce sont les voies d'approvisionnement par lesquelles peuvent passer les convois d'aide humanitaire, en échange de quoi il y aurait l'acceptation d'une trêve. Est-ce que l'Iran, qui est la force alliée, qui est le soutien technique et logistique des Houthis, acceptera? C'est la question, sachant qu'il y a aujourd'hui une nouvelle direction qui a pris les rênes du pays à Téhéran ces derniers jours. Le chef houthiste Al-Houthi s'est engagé, lui, auprès d'une délégation venue d'Oman, à se rendre à une table de discussion pour parler d'un cessez-le-feu après la levée du blocus. En tout cas, il a laissé entendre qu'il était disposé à parler. C'est somme toute quelque chose qui est assez nouveau, puisque les Houthis à la fois ont mêlé le chaud et le froid, un jour se disant prêts à négocier mais n'allant pas jusqu'au bout d'un processus qui soit acceptable pour la coalition arabe, et puis il y a des moments donnés aussi de blocage, des moments donnés où les Houthis se referment sur eux-mêmes et il semble totalement impossible d'imaginer une négociation. L'idée qui prévaut alors est que les Houthis veulent d'abord une victoire militaire pour ensuite aller à la table des négociations. Les envoyés américains Tim Lenderkin et Griffith se sont rendus à Riyad la semaine dernière pour rencontrer des responsables politiques. Il y a également le négociateur en chef des Houthis, Mohamed Abdul Salam, qui a déclaré à une agence de presse britannique que le groupe souhaitait une réouverture, si ce n'est des négociations. En tout cas, qu'il était prêt à accepter des gestes sur l'aéroport de Sanaa. Tout cela est extrêmement ténu. Ce sont vraiment des éléments sur lesquels il est difficile d'établir une analyse en tant que telle. Mais c'est vrai qu'il semblerait, au regard de la situation militaire sur Marib, qui n'évolue pas de façon significative, qu'il pourrait y avoir un retour à la table des négociations, ce qui serait hautement souhaitable. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.